C'est juste à l'instant où la motocyclette allait le heurter que la réponse mit fin à son hésitation. Visualise-la sous la forme de la déesse Rajarajeshwari. Alors, il projeta le bras en avant pour se protéger et le véhicule fut miraculeusement dévié de ce côté. Il arriva chez moi plus ou moins en état de choc et avec quelques éraflures au bras, mais sinon, indemne. Comment peut-on reconnaître le gourou authentique ? Comment choisir entre différents gourous qui enseignent différents chemins ? Il y a très peu de soi-disant gourous pleinement réalisés. Quelques-uns ont peut-être atteint une réalisation partielle. En général, lorsque le disciple est prêt pour le gourou arrive. Aucun vrai gourou ne promettra l'illumination instantanée. Quand on le trouve, il faut s'abandonner à lui complètement. Pensez en termes d'école et d'université. Il y a quantité de classes et des enseignants pour chacune d'elles. Il y a aussi des domaines dans lesquels certains individus ne devraient pas tenter d'entrer. La tradition, en particulier celle des hindous orthodoxes du sud de l'Inde, a toujours regardé les femmes comme des candidates inadéquates à l'initiation ou à la direction spirituelle, tant qu'elles ont leurs règles. Et dans la vie courante, il y a une forte ségrégation à leur égard pendant ces périodes. Elles doivent dormir dans des chambres séparées et n'ont même pas le droit de cuisiner. Quelle est votre opinion sur ce point ? Je considère ces idées comme stupides et erronées. Cela ne devrait faire aucune différence. Bien sûr, il y a des différences d'émotivité entre hommes et femmes, mais cela n'a rien à voir avec la réalisation de soi. Cependant, cette tradition a aussi ses avantages. Elle permet à la femme de prendre le repos dont elle a besoin. Et je pense que c'était là son but principal. Quel devrait être l'objectif spirituel des femmes modernes en Inde et en Occident ? Mon enseignement est le même pour tous. Il se résume dans les principes de vérité, de pureté, de dharma et d'ahimsa absolu. D'ahimsa. La vérité les contient tous, mais la pureté insiste davantage sur la perfection morale ou moralité, tandis que le dharma ou droiture est plus en rapport avec la responsabilité face au devoir. Vous savez évidemment que ahimsa veut dire non-violence. Tous ceux qui désirent pratiquer le complet renoncement, mon chemin vers l'action sans désir, doivent se soumettre à ces principes. Y a-t-il stricte égalité entre hommes et femmes pour ce qui concerne les caractéristiques spirituelles ? Avez-vous jamais vu la statue de Shiva Ardhanari, qui est donc une déesse hindoue ? Il est représenté avec deux sexes, mais un seul corps. Nous devons premièrement percevoir les caractères distinctifs précis au niveau purement physique. Quand les éléments masculins et féminins sont développés entièrement et se complètent mutuellement dans le même individu, l'âme est totalement réalisée. C'est vrai que les hommes et les femmes ont des caractéristiques différentes. La femme tend à être plus émotive, mais aussi maternelle et aimante. L'homme est en revanche plus intellectuel, peut-être plus courageux. Mais on ne peut se fonder absolument sur ces distinctions. Pour ce qui me regarde, je n'ai plus la sensation d'habiter le corps d'un sexe particulier. Il m'arrive en fait de parler de moi en utilisant des prénoms masculins. Votre fille cadette, qui est mariée, a mentionné que vous êtes originaire de la caste Nayar au Kerala. Cette caste a connu l'héritage par la lignée féminine, ce qui signifie que les femmes y ont un statut élevé. Pensez-vous que cet arrière-plan vous a encouragé à poursuivre votre chemin spirituel avec indépendance ? Il faut vous dire que je n'ai presque pas vécu au Kerala. Mon père était administrateur général délégué du Southern Railways au temps des Anglais et c'était le poste le plus haut jamais occupé par un Indien dans cette compagnie de chemin de fer. Nous vivions à Madras dans le luxe, grande maison, beaucoup de serviteurs et j'ai suivi mes classes dans des couvents catholiques et réussissais très bien dans certaines disciplines. J'ai toujours été très bonne en anglais, mais c'était même prédit dans mon horoscope. Comme enfant, j'avais adopté un code de conduite très strict, mais je pouvais aussi être polissonne. Je me choisis comme mot d'ordre. Je préférerais le dire sous la forme allemande « ich diene », je sers. Dans les premiers temps de mon mariage, je me perfectionnais en musique, en photographie, en jardinage. Je jouais de la vina, un instrument à cordes, et passais une fois sur les ondes de « All India Radio ». Mais Dieu a mis un terme à tout cela. Pendant une longue période de ma vie, en plein milieu de mes devoirs de maîtresse de maison, il a voulu que je me retire complètement. et j'étais sans interruption enseignée par la voix divine. J'ai eu des visions, y compris une du Sacré-Cœur de Jésus projetant des rayons éblouissants de puissance à travers tout mon corps. Je raconte ces choses en passant pour vous donner une idée. Il se peut que la grande dignité généralement accordée aux femmes au cœur et à l'âme est influencée, ne serait-ce qu'indirectement. Il est vrai aussi que le taux d'instruction des gens du Kerala est le plus haut de l'Inde. Même les serviteurs sont tout le temps en train de lire des journaux et des livres. Nous sommes habitués à rechercher le savoir. Il se peut également qu'il soit un peu plus facile aux femmes de venir me consulter que d'aller vers un homme. Elles peuvent évoquer leurs problèmes personnels sans timidité avec moi. De fait, le Shankaracharya m'a envoyé un grand nombre de femmes, car lui-même ne nous prend pas de disciples féminins. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8 et nous sommes en train de découvrir ce qu'est les pensées, la vie d'une femme gourou, une mère gourou, Jnanananda, qui vit à Madras. Une femme exceptionnelle puisque son rôle n'a jamais été rempli par une femme en Inde. Et nous découvrons ceci dans un livre écrit par Nancy Auerfaux et Rita Magros, La religion par les femmes. C'est Charles White qui fait le portrait de Jnanananda, la mère gourou. Et le 29 mars 1979, Ma, qui est l'autre nom pour Jnanananda, qui veut dire mère, Ma Sadguru, fit un grand privilège à Charles White en lui accordant de rester avec elle pendant la première de deux soirées où elle donnait le darshan à ses disciples indiens. Pendant ces échanges, il put voir et entendre environ 40 personnes venues individuellement ou en famille. Pour l'instant, en tout cas, Ma est capable de recevoir personnellement la plupart des personnes qui désirent la rencontrer. Quelle impression de soulagement cette discussion intime avec Ma doit procurer aux individus stressés qui la découvrent. Cette mère aimante au milieu des courants et contre-courants tortueux de la vie indienne. Elle ne dit cependant pas toujours ce qu'on aimerait entendre. En effet, Sadhguru peut aussi être vu par ses disciples comme une incarnation de la déesse Rajareshvari. Les Occidentaux comprendront mieux cette façon de voir en essayant de la considérer comme une incarnation de la bienheureuse Vierge Marie. Je ne pense pas que Ma trouverait cela faux. La qualité de son attitude maternelle est donc d'une toute autre catégorie que le sentiment maternel ordinaire. La première personne à se présenter fut un jeune homme d'une vingtaine d'années que j'avais vu attendre dehors. Apparemment, rien ne clochait chez lui. Après s'être prosterné devant Ma, il se mit à genoux et lui demanda avec un sourire fervent, implorant, de l'aider à trouver un emploi. « Par ta grâce, mère, je le trouverai. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. » Jnanananda répliqua, « Mais combien d'emplois puis-je t'aider à trouver ? Tu les quittes tous après 3 mois. Tu dois apprendre à tenir bon dans ton travail. Prends-tu toujours ton médicament ?
Oui, mère. Par ta grâce, je sais que je peux trouver un emploi.
Après son départ, elle dit :
Vous savez, c'est un cas de maladie mentale. Il ne peut pas garder un emploi. Il est sous tranquillisant puissant. C'est malheureux.
Une jolie jeune femme s'agenouilla devant Ma. Elle parlait d'une voix très basse, si bien que je ne pus entendre toute la conversation. À un moment donné, Ma dit «
Tu dois continuer à prier à tout prix, même si tu sens que tu n'en as pas la force. Prie mécaniquement à défaut d'autre chose. C'est le dernier remède pour t'aider à surmonter ta dépression et ton désespoir. »
À la fin de l'interview, la femme pleurait doucement et demandait « S'il te plaît, aide-moi, mère, s'il te plaît, aide-moi. » Jnanananda sourit et ferma les yeux avec une expression de paix profonde. Lorsqu'elle les rouvrit, elle lui donna une poignée de cendre sacrée sur une feuille de bananier. La jeune femme se prosterna et s'en alla. Pratiquement à chaque darshan auquel j'ai pu assister, Ma offrait une sorte de substance sacramentelle, de l'eau par exemple, qui avait été bénie par le dieu ou le gourou. Elle offrait aussi des bonbons durs ou des caramels. Une fois, elle me donna un petit régime de bananes. C'est aussi la coutume que ceux qui viennent pour un darshan apportent un présent au gourou, un fruit, une noix de coco, des fleurs, des bâtonnets d'encens ou de l'argent. Il y avait des plateaux devant Ma pour accueillir les offrandes. Une dame âgée aux cheveux blancs, vêtue de l'élégant sari de couleur sombre qui est le signe de la classe des brahmanes, parla à Ma assez longuement. Puis Ma sourit largement en se recalant dans son siège et dit d'une voix forte « Comment peut-il se tromper ou aller à l'échec aussi longtemps que je suis là ? Il n'y a aucun souci à avoir. » La femme, ainsi que je l'appris plus tard, s'inquiétait pour son fils qui avait entrepris un sadhana, c'est-à-dire une discipline spirituelle intensive sous la conduite de Ma. Elle tenait une grande enveloppe dont elle semblait discuter du contenu avant Ma, avant de la déposer sur un des plateaux de bronze destinés aux offrandes. Ma me dit ensuite que cette femme lui avait apporté un acte de donation pour une maison, mais qu'elle ne savait pas si elle allait l'accepter ou non. Une fillette d'environ 12 ans arriva avec sa mère. Ma discuta gentiment avec elle en tamil. L'atmosphère était devenue familière et détendue. À un moment donné, la fillette sortit sa plume et la plaça sur le plateau, en face de Ma Sadhguru. Celle-ci sourit avec indulgence, prit la plume et la lui rendit. Ensuite, elle rit et expliqua que la jeune fille désirait une bénédiction spéciale pour sa plume, parce qu'elle allait s'en servir pour ses examens. Une femme rondelette d'âge moyen, à qui il manquait plusieurs dents, entra et s'assit en face de Ma. Elle parlait avec exubérance, souriant, fronçant les sourcils et gesticulant tour à tour. Ma m'expliqua plus tard qu'elle se plaignait de sa vie familiale. Elle était veuve avec 3 fils et 3 filles, mais elle ne s'entendait pas avec eux. Elle se plaignait que ses belles filles l'avaient chassée de la maison. Elle voulait venir vivre avec Ma et prononcer les vœux de sannyasi. Mais Ma dut lui dire que non. Elle n'était pas prête pour cette existence-là et ne le serait pas durant cette incarnation. Je vins d'autres fois auprès de Ma avec des Occidentaux, en quête de direction spirituelle. Même si les questions étaient celles d'un autre, elles auraient pu être les miennes et celles de n'importe quelle personne en recherche, indienne ou étrangère. Ses réponses sont révélatrices d'une bonne part de son enseignement religieux. Dès que je lui présentais mon ami d'Amérique du Sud âgé de 24 ans, Sadhguru se mit à parler sans même attendre la première question. Il faut s'abandonner totalement à Dieu, il n'y a pas d'alternative. Chaque matin, il faut passer un certain temps à prier, à méditer de la façon qui convient à la divinité qu'on a choisie. Puis il faut tourner son attention vers les activités ou le travail du jour. Personne ne peut rester sans rien faire. Il faut se livrer à ses occupations quotidiennes de manière telle que l'attention de l'esprit puisse rester focalisée sur Dieu. L'objectif est toujours de s'abandonner totalement à Dieu.
Je suggère divers chemins selon les tempéraments. Tout le monde n'est pas prêt à s'examiner soi-même ou à se soumettre aux exercices des grands enseignements religieux. C'est celui qui s'y essaye n'est pas au bénéfice d'une bonne maîtrise de soi au niveau inférieur et ne possède pas une certaine discipline mentale. Tout cela est pure moquerie. Cela peut le mener dans l'erreur. Et si l'on n'est pas prêt pour ces exercices, ces derniers peuvent affecter la santé et augmenter la pression sanguine. Je vais vous raconter une histoire. Un vieux sannyasi vint me trouver. Il prétendait qu'il avait fait un bon bout de chemin vers la réalisation. Je n'en étais pas si sûre. Et lui demandait s'il avait l'habitude de manger du riz raffiné ou du riz brut. Il répondit qu'il se servait de riz raffiné. Je lui dis alors de changer de régime et de revenir me voir la semaine suivante. Lorsqu'il revint, je lui posai des questions sur sa santé. « J'ai été très malade », fut la réponse. Vous voyez, son corps avait encore une telle emprise sur lui que même un simple changement de régime suffisait à le déséquilibrer. J'ai passé des années à ne dormir qu'une heure par nuit et à pratiquer un jeûne très dur. Maintenant, je ne sais même plus si je mangerai demain. Je suis depuis plusieurs jours au régime liquide uniquement. Ainsi, pratiquez simplement la prière et essayez de purifier votre esprit. Lorsque certaines pensées qui distraient pénètrent dans votre esprit, il ne faut pas les entretenir. Rappelez-vous qu'elles peuvent être dirigées, contrôlées par une prière de substitution, un mantra ou en pensant à Dieu. Rien ne dure, ni les joies ni les tristesses. Une très grande part de notre vie est fixée d'avance. C'est le résultat du karma passé. Nous ne pouvons rien éviter, mais notre attitude en face des événements, le genre d'attention que nous leur accordons, voilà qui dépend de nous. C'est là que nous exerçons notre liberté. Vous comprenez ? Oui, dit mon ami. Je pense que je comprends ce que vous dites. C'est difficile, mais je suis d'accord. J'ai cependant une ou deux questions à vous poser. Et Charles White de nous transmettre les questions que son ami sud-américain posa à Ma Sadhguru et vous verrez les différences avec les questions posées par ses disciples indiens. Premièrement, mes études. Je me demandais s'il faut continuer à étudier. Quel rapport y a-t-il entre elles et la réalisation divine ? Je vous ai dit, répliqua Ma, que l'on doit faire quelque chose. Il vous faut continuer vos études selon le cours normal, mais tourner votre esprit le plus possible vers Dieu, comme dans toute activité tournée vers l'extérieur. Il se peut que vous atteigniez un point où vous serez incapable de continuer selon les vieux schémas. C'est alors le moment d'arrêter, quand les choses tombent d'elles-mêmes, automatiquement. Une autre question, continua le jeune homme sud-américain. C'est à propos de la vie sexuelle. Cela ne me pose pas trop de problèmes, mais je voudrais savoir comment avoir le contrôle total de mes désirs sexuels. Ma Sadhguru répondit. La première chose à garder en mémoire, c'est que votre cas n'a rien d'exceptionnel. La plupart des gens sont dans la même situation. Ils choisissent entre le célibat et le mariage. Dans l'ensemble, du point de vue de la vie religieuse, il vaut mieux être célibataire. Le mariage vous tire inévitablement dans le monde et ses problèmes. Le chemin vers l'amour divin finit par effacer les amours de la nature inférieure. Il faut aimer Dieu et désirer l'union divine à un point tel que cela vous donne envie de pleurer. Nous avons tous une nature supérieure et une nature inférieure. La supérieure tend à triompher de l'inférieure à mesure qu'elle se développe. Le mariage est nécessaire pour d'aucuns. Comme le dit la Bible, il vaut mieux être marié que de brûler. Mais la vie à deux est difficile et c'est comme courir avec trois pattes. Et de Masatkanu de rire. On ne peut pas aller très vite. Seuls ceux qui ont purifié leur vie peuvent s'élever très vite vers la réalisation divine. Il y a autre chose encore. Je réponds rarement à des questions à propos du sexe. Les réponses viennent en général du dedans de vous. Le sexe est une matière intensément personnelle. Et pour terminer ce portrait de Jnanananda, la mère gourou qui vit à Madras, eh bien je vous livre l'épilogue de Charles White qui a écrit ce portrait. Tout au long des semaines, des mois et des années durant lesquelles j'ai fréquenté Ma,
Je me suis sentie toujours plus attirée par elle. Jusqu'à quel degré cela est-il dû au fait qu'elle était une femme ? Je crois que beaucoup de gens aimeraient avoir une mère comme elle, apparemment sans conflit intérieur, digne, sage conseillère et en même temps accueillante sans restriction. Par ailleurs, pour autant que je puisse me prononcer, sa connaissance spirituelle jaillit de la profondeur d'une vie intérieure qui semble éclairer l'expérience humaine en général, au masculin comme au féminin. Et là, il est vrai, une puissante personnalité, et cela est particulièrement significatif d'une époque où les femmes cherchent à accéder au rôle dirigeant dans tous les domaines. Mais Jnanananda Saraswati, la déesse gourou, a une énorme capacité d'attraction pour quiconque, homme ou femme, désire apprendre à connaître les profondeurs de la réalité spirituelle. Et cela sous la conduite de quelqu'un doué d'un don surprenant pour expliquer ce qu'elle en perçoit. Le portrait de Jnanananda, mère gourou de Madras, a été écrit par Charles White et on le trouve dans le livre de Nancy Auerfaux, Erita M. Gross, La religion par les femmes, publié aux éditions Labor et Fides. Et c'était notre deuxième émission sur le thème La religion par les femmes. Nous nous retrouverons le mois prochain sur ce thème dans Remue Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8. Goodbye, mon cruel. C'était les Shakespeare Sisters qui nous disaient, qui nous chantaient cela. La semaine prochaine, dans Remue Ménage, Onde Femme Radio Zone 3.8, eh bien, nous rencontrerons Anne de Castello, qui est journaliste sur Espace 2, la radio suisse romande, et qui était à Noël dans les territoires occupés, enfin, à savoir Gaza et Jéricho, pour faire toute une grande série d'émissions pour Espace 2, et qui est d'accord de nous faire part des rencontres qu'elle a faites au féminin, parce qu'elle a eu l'occasion de rencontrer de nombreuses femmes. Et en plus, je crois qu'il est intéressant de voir comment, au travers de ses yeux de femme journaliste, on peut découvrir ce qui se passe en ce moment à Gaza et à Jéricho. Alors voilà, la semaine prochaine, Anne de Castello, Gaza, Jéricho. Et pour terminer cette émission, nous restons en compagnie des Shakespeare Sisters. La lune s'installe dans notre studio et les informels de Radio Pleine Lune, c'est dans à peu près 4 minutes.
You hate with an X, then shoot your bow and arrow.
Shoot your bow and arrow.
Do your worst, get it all off your chest. I'll hold my breath and swallow. We hurt the ones we love the most. It's a subtle form of discipline. I don't care if you talk.
J'essaierai de le faire à la fin de chacune de nos émissions, une petite pensée qui, nous l'espérons beaucoup, toutes les femmes de Onde Femme vous émouvront un petit peu. C'est des pensées qui sont tirées d'un livre écrit par Benoît de Groot, le dernier, qui a pour titre « Cette mal-assurance », publié chez Albin Michel. Et là, toutes sortes de pensées absolument insensées à propos des femmes. Et aujourd'hui, bien sûr, j'ouvre le chapitre dans Les religieux pour rester dans l'atmosphère de Remue Ménage aujourd'hui. Et je vous lis un extrait de la Bible, ni plus ni moins. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, car j'étais nu et je me suis caché. » Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'avais prescrit de ne pas manger ? L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Tu seras avide de ton homme et lui te dominera. » Là est toute l'histoire, vous le savez bien.
Apology to you with friends like me.